Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le Nouveau Testament et nous allons commencer par une lecture bref, dans l'évangile de Jean au chapitre 1er. Alors, évangile de Jean, chapitre 1er, verset 14. Et ensuite un autre verset un peu plus bas. Alors voilà ce que nous découvrons. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et je passe au verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà le sujet que nous allons aborder pendant deux fois. Je vais traiter ce problème, c'est un enseignement. Cette question de la loi et de la grâce. Je pense que nos églises ont vraiment besoin, pour leur épanouissement, pour que nous puissions rentrer dans une dimension de liberté de savoir, la signification des mots, qu'est-ce que la grâce et qu'est-ce que la loi. La loi a donné le légalisme et la grâce a amené la vérité et la liberté. Et il y a beaucoup de confusion dans les milieux chrétiens, y compris les milieux protestants évangéliques comme chez nous, où quelquefois nous sommes beaucoup plus ancré dans un raisonnement et un fonctionnement chrétien inspiré de l'Ancien Testament qui est la loi, plus que dans le Nouveau Testament qui est la grâce et la foi. Et ça, je crois que c'est peut-être justement un des aspects qui entrave la mission qui est la nôtre d'évangélisation du monde. En principe, la loi, eh bien, c'est quelque chose de rébarbatif et quelque chose que l'on fuit ou quelque chose que l'on enfreint. Mais la grâce, eh bien, c'est quelque chose à laquelle on adhère, un principe qui finalement fait du bien parce que la grâce, c'est la liberté. Quand il y a une grâce présidentielle, par exemple, pour un condamné, eh bien, ça veut dire qu'il est absous. Il est libre. Il est affranchi, tout simplement. Et ça, je vais marquer bien les mots ce matin et puis une fois prochaine. Et nous allons commencer par le premier aspect, peut-être le plus difficile, c'est la loi. Voilà, la loi de Dieu. La loi sainte de Dieu. Et on va prendre en considération. Et j'aimerais justement, peut-être avec ce que Dieu va nous donner de comprendre et moi de vous dire, dans la simplicité, eh bien, on va faire une deuxième lecture dans le livre des Galates. Galates, au chapitre 3. Galates, chapitre 3 et verset 23. Et là, nous allons voir la complémentarité sur cette méditation sur la loi. La loi de Dieu, la loi des hommes, et les différentes lois qui existent dans le monde. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, comme une prison, captifs, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un précepteur, j'explique, un pédagogue, un professeur, un instituteur, un éducateur, vous mettez tous les mots. Le mot qui est retenu ici, c'est précepteur ou pédagogue. Pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous sommes plus sous ce précepteur. Voilà. Nous avons été finalement affranchis de ce cadre, de cette instruction, hein, de ce code, nous pourrions dire. Alors, nous pouvons commencer de cette manière, mais comment comprendre la loi de Dieu ? Est-ce que l'on peut la comprendre d'abord ? De toute façon, la parole de Dieu, c'est comme un homme qui se trouverait sur un rivage auprès de l'océan et qui là, eh bien, pourrait contempler jusqu'à l'horizon, perdre ses yeux, perdre la vue finalement, sans finalement voir le bout. Hein. C'est un océan. Donc, comprendre la loi de Dieu, je voudrais vous dire, peut-être c'est assez paradoxal parce que c'est vivre. La loi, elle met à mort. Ah oui, parce que quand il y a des choses graves, là où ça n'existe plus, parce que bon, nos démocraties ont écarté la peine capitale, mais la loi, elle déclare coupable, elle juge, elle déclare coupable et elle condamne, et c'est la mort. Et moi, je voudrais vous dire le contraire, mais vous allez voir que il y a des aspects qu'il faut que ça pénètre dans nos âmes. Eh bien, je dirais que comprendre la loi, c'est vivre, hein, parce que si nous avons compris ça, nous allons passer de la loi à la grâce. C'est ce qui est dit dans Galates. Eh oui, avant la grâce et avant finalement la foi, il y avait la loi. Et tout ça pour une raison, parce que l'homme est pécheur, parce que l'homme est perdu, parce que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Et nous allons comparer l'homme, l'humanité, ce que nous sommes les uns et les autres, eh bien tout simplement à un boiteux, à quelqu'un qui aurait été estropié dans sa vie, un handicapé physique, auquel on ajoute une prothèse. Alors des prothèses, en voilà une. Peut-être qu'il y en a qui en ont les oreilles, il y en a peut-être sur les bras, enfin, voilà les prothèses. À l'intérieur et à l'extérieur de notre corps, il y a des prothèses, l'homme a inventé la prothèse. Et on pourrait dire ça comme ça. Et figurez-vous que la loi, c'est une prothèse. C'est pas une chose définitive. Bon, elle peut nous servir dans la vie, hein, ça c'est clair, parce que... Et c'est une prothèse. Dans le monde social... Celui qui nous environne et que nous connaît bien, que nous connaissons bien et que nous devons observer, eh bien, ce genre de prothèse, on l'appelle code. C'est le code civil. C'est le code de la route. Ce sont toutes ces choses qui nous sont données pour que finalement nous puissions vivre en société. Le mot qui apparaît aujourd'hui, c'est le savoir vivre ensemble. Hein, on l'entend en ce moment. Hein. Mais les codes de ceci, le code du travail, enfin bon, tout ce qu'il peut imaginer qui renferme cette pensée. Ce sont des lois en quelque sorte, avec toutes les législations existantes pour une chose ou pour une autre. Beaucoup récriminent contre la loi ou les lois, parce qu'on n'aime pas être cadré au code de la route. Quelquefois, quand on voit le orange, attendez, ça coûte cher. Le rouge, ça coûte encore plus cher. Et il y a toutes sortes de choses. Le respect de la signalisation, ce sont des règles. Alors, quelquefois, on pourrait toujours dire, ben oui, mais je suis pressé. Ben oui, t'es pressé, mais tu vas payer. Pour aller plus vite. Bon, voilà. Multiples législations. Et c'est vrai que les gens n'aiment pas ça, parce qu'il y a toujours des barrières, il y a une manière ou une autre. Mais, on va voir que ça a une utilité. Et on pourrait dire que la loi, toutes les lois de ce monde, ce sont des superstructures. C'est l'ossature de la société. Eh oui, la société, elle est forte, elle est en paix, elle est unie, enfin, on pourrait dire ça comme ça, si vous voulez, je cherche les mots, mais elle fonctionne parce qu'il y a des lois. Parce que la loi, elle garantit la paix. Elle garantit la sécurité autant pour moi que pour les autres. Elle garantit la justice, parce qu'on peut se baser sur une loi pour faire la justice. S'il n'y a pas de loi, qu'est-ce que vous voulez condamner ? Tout le monde pourrait dire, ben moi j'ai raison, et puis toutes sortes de choses. Et puis il y a une chose aussi qui est importante, c'est qu'elle garantit notre liberté, la loi. On ne fait pas et on ne vit pas, on ne dit pas n'importe quoi. C'est normal, il y a des règles, il y a des lois. Imaginez-vous quelques instants une société sans loi. Alors il y a des pays dans le monde aujourd'hui dont on entend souvent parler, il n'y a plus de loi, tout est par terre. Voilà. On fait un petit peu comme on veut, et puis ben voilà, c'est ça, hein, c'est les tout pour soi, ou voilà, c'est un peu à l'emporte-pièce. Donc une société sans loi, l'homme pourrait-il vivre dans une société semblable ? Il y aurait des règlements de compte, il y aurait l'omerta, il y aurait toutes sortes de choses. Hein. De même pour un invalide ou un infirme dont nous avons parlé il y a quelques instants. l'équipement palliatif, que l'on amène une prothèse et qu'on lui adapte à sa personne, parce que c'est pas du prêt-à-porter naturellement, est source pour lui, écoutez bien, de mobilité, d'aisance, et non de restrictions et de contraintes. Quand on met une jambe articulée à quelqu'un, c'est pour qu'il puisse marcher. Quand on prend des lunettes, par exemple, c'est pour qu'on puisse voir clair, normalement. Quand on adapte je ne sais pas quel appareil d'une façon ou d'une autre à quelque situation, quoi que ce soit, c'est pour nous faciliter la vie. La prothèse, hein, la béquille, est là pour nous faciliter la vie. Quelqu'un qui n'aurait qu'une jambe, avec une jambe, il peut aller loin. Mais par contre, avec deux jambes, même si c'est une prothèse, il va pouvoir marcher. Il va trouver une mobilité, une aisance, donc, et une liberté. On peut dire qu'à cause du mal, et je reviens toujours à ce phénomène récurrent qui est le mal qui existe dans le monde, que l'on appelle le péché. Il faut avoir finalement le courage des mots, parce que ça, tout le monde le ressent à un moment donné, même si nous sommes de bonne volonté, à un moment donné, nous avons toujours des faiblesses, des vulnérabilités, et puis on se dit, bah oui, peut-être que... Voilà. Alors, qui est sans péché ? Personne. Alors, à cause de cette condition adamique, et vous comprenez le mot, la loi est un absolu qui, lorsque cette loi est bien comprise, est un garant de liberté. Mais il faut bien la comprendre. Et je reviens à ce que je disais précédemment, quelquefois même dans les églises de la vie de l'esprit, les églises évangéliques, les églises charismatiques, eh bien moi je suis pas sûr que tout le monde ait bien compris ce que c'est que la loi. Ah oui, franchement. Quelquefois je me pose des questions, je me dis, mais ce chrétien, il est encore dans la loi ou il est passé dans la grâce? En raison de son attitude, en raison de ses craintes, de ses peurs, quelquefois en raison de ses agressivités. Parce que ça peut arriver, c'est pas normal. Donc la loi est un absolu qui, lorsque c'est bien compris ce principe, eh bien, nous donne la liberté, et la liberté à tous, parce que nous sommes en bénédiction. Les propos de Paul sont sans équivoque. Quand, par exemple, dans Romains, il dit ceci, il pose la question, la loi est-elle un péché ? Non, la loi n'est pas péché, mais elle est faite pour le péché. Le commandement de Dieu, dira-t-il, nous conduit à la vie, c'est vrai. Alors il en tira cette conclusion, la loi de Dieu est donc sainte, le commandement est juste et bien, la loi donc est spirituelle. Mais moi, face à ce que Dieu dit dans sa loi divine, moi qu'est-ce que je suis dans cette affaire? Eh bien, je suis renvoyé finalement à mon image. Parce que quand il est dit tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ceci et cela, alors à ce moment-là c'est mon image qui m'est renvoyée. Parce que je me vois que je ne suis pas capable, finalement, d'être ce que la loi me demande. Tu ne tueras point. Oh, bien sûr, je ne tue pas, et j'ai pas envie de tuer. Mais quand je suis en colère, et quelquefois des grosses colères, quelquefois j'ai envie de faire des choses qui sont répréhensibles. Tu ne voleras pas. Ben oui, bien sûr, j'ai pas envie de voler, ça c'est sûr. Mais si quelque chose me manque, et puis une tendance un petit peu à glisser de droite et de gauche, ben voilà, je suis confronté, ne pas. Parce que la loi c'est ça. La loi de Dieu, c'est ne pas, c'est le commandement, c'est une absolue, mais on en avait déjà parlé il y a quelques années, même le commandement de Dieu est libérateur quand on l'a bien compris, vous verrez, parce que c'est pas une prison, au contraire, c'est quelque chose qui va nous faire grandir, c'est quelque chose qui va nous amener à une notion de conscience, du bien et du mal, ne serait-ce que pour parler comme ça, c'est un peu manichéen, mais néanmoins, ça quand même, parce que si on dit pas « tu ne tueras pas », alors à ce moment-là, eh bien, on ne sait pas si mourir, vivre, tuer, qu'est-ce que c'est bien ou c'est mal. Donc c'était dit en tous les cas. La loi est spirituelle, la loi de Dieu, mais moi, qu'est-ce que je suis? Alors qu'est-ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous faisons encore dans le monde, et particulièrement peut-être aussi dans les églises chrétiennes, de cette loi divine nécessaire? Comment l'avons-nous exploitée? Est-ce que c'est pour dominer les hommes? En disant, eh bien, tu ne mangeras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, comme pendant des siècles, eh bien, le monde chrétien l'a fait, en écrasant, en faisant des hommes des esclaves, en faisant des chrétiens, des soumis. Mais comment nous l'avons détourné? Comment avons-nous détourné cette pensée contre l'homme lui-même? On l'a exploité, parce que ça donnait du pouvoir à certains, il y avait les dominants et il y avait les dominés. en tremblant. Si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas ça, tu iras en enfer, tu seras puni, et puis voilà, etc. Et pourquoi, peut-être, si nous pensons la chose un peu différemment, pourquoi cette loi est-elle si contraignante? Les lois civiles, les lois de l'extérieur du monde sont contraignantes, c'est vrai. Maintenant, bon, ça ne nous empêche pas de vivre, hein, si on les respecte. Mais les lois qui nous sont données à travers la Bible, quelquefois, elles sont contraignantes. Elles sont contraignantes parce que elles provoquent notre conscience. Et il y en a un qui exploite notre conscience. Ah, t'as vu, tu pries Dieu, tu veux servir Dieu, mais regarde dans quel état tu es, regarde les pensées que tu as. Regarde quelquefois la saleté qu'il y a dans ton cœur. Alors lui, il nous accuse. C'est pas Dieu, hein, attendez, hein. C'est pas Dieu. Le diable se sert de la loi de Dieu pour nous accuser, en dire ben voilà, ben c'est même plus la peine d'être chrétien, ben je continue comme avant, hein, c'est pas la peine. Avec ce tourment de conscience, avec ces bouleversements moraux que nous pouvons avoir, ouais. Alors je prends un exemple pour faciliter les choses. Un exemple et une comparaison. On va faire appel aux sciences naturelles. À la biologie, si vous permettez, on va pas aller très loin, hein. J'ai pas amené mon microscope, n'ayez pas peur. Écoutez bien, le corps humain est composé de chair, de muscles, d'organes, et la partie rigide de notre être, c'est l'ossature. Voilà, et on va vous expliquer la valeur de cela, et la raison de cela. La constitution osseuse est loin d'être un handicap. Au contraire, sans les os, imaginez-vous quelques instants, sans les os dans notre corps, nous serions réduits à des créatures rudimentaires, telles que le ver de terre ou la limace qui glisse par terre. On aurait de la chair, on aurait des muscles, on aurait toutes sortes de choses, mais il y a quelque chose de soutien que Dieu a créé. Pour que nous puissions être debout, pour que nous puissions nous mettre debout et que nous puissions finalement, eh bien, avoir à la fois résistance et puis souplesse. Et nous ne sommes pas des invertébrés. D'accord? Autrement, je vous aurais pas mis de chaise, hein, vous seriez tous par terre. Hein. C'est pas à peine des chaises. Si chaque partie molle du corps a sa fonction indispensable, la structure osseuse ou la constitution osseuse a aussi sa raison d'être. Job nous dit ceci dans la Bible. Il parle à Dieu. Tu m'as revêtu de peau et de chair, et tu m'as tissé d'os et de nerfs. Donc là, on a la composition sommaire peut-être, mais de ce que nous sommes. Le dur et le mou, en quelque sorte. Tout ça harmonieusement créé, sorti des mains géniales de Dieu. Et c'est ce qui fait que nous sommes des hommes et des femmes. Dieu a bien fait les choses qu'il a créé. Dans la vie spirituelle, si nous mettons les choses en parallèle, la partie consistante, robuste, solide, dure, qui contribue, que l'ensemble tient debout, c'est la loi de Dieu. Dans une église, à l'image du corps humain, ce qui va faire finalement, eh bien, la constitution et qui va permettre à l'église, au corps de Christ, de tenir debout dans ce monde, c'est parce qu'il va y avoir, eh bien, cette loi que l'on appellerait peut-être d'une manière un peu plus soft, la parole de Dieu. Voilà. Loi de Dieu, commandement de Dieu, c'est-à-dire cette parole qui est là. Heureusement, hein, parce que nous ne sommes pas un club, nous ne sommes pas un syndicat. Il y a ici, dans les églises que nous sommes et que nous représentons, eh bien, il y a là quelque chose qui fait qu'il nous rassemble autour, non seulement d'une personne qui est la personne de Jésus, mais autour de quelque chose qui est ouvert à chaque fois que nous nous retrouvons, c'est la Bible. C'est l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Nouveau Testament particulièrement pour nous les chrétiens. Autrement, on se dirait, voilà, on suivrait un maître, on suivrait un gourou qui aurait des idées, etc. Mais ce ne sont pas nos idées, c'est les idées de Dieu qui ont été répandues par les prophètes et puis par Jésus-Christ surtout. C'est lui qui est le fondement. C'est lui qui est la base de tout cela. Alors, ce qui tient à l'Église, ce qui lui permet de tenir debout, c'est la loi de Dieu. C'est l'ossature spirituelle du corps spirituel. On dirait, c'est une armature. Ça va? Bon. Une autre preuve du génie créateur. parce que aucun matériau est aussi adapté aux exigences du corps humain que l'os, c'est-à-dire notre squelette. C'est la structure la plus légère qui soit, et il nous est dit dans voilà, les commentaires, 1/5 de notre poids est en squelette en os. Voilà, 1/5. Sa fonction est, précise. Nos os, notre squelette, protégés à travers pour le crâne, parce que le crâne c'est des os, hein, ou la cage thoracique, pour le cœur, les poumons, etc., etc. Ça sert à porter, à soutenir le bassin et la clavicule. Vous en allez savoir des choses. Waouh ! Les os sont capables de toutes les pressions les plus inouïes. Ils font ressort pour un sauteur. Ça vous permet de vous... Si on était sans os, on volerait pas haut. Hein. Imaginez-vous. Donc, il faut ressort. Il dégage de la force. Vous avez vu la Coupe du Monde quand il tape dans un ballon? Paf! C'est extraordinaire, hein? Ils permettent les plus fortes tensions sans casser. Mais heureusement, enfin, ça casse quelquefois quand on dépasse les limites, hein, naturellement. Soulever une valise. C'est un geste anodin de soulever une valise. Mais si on n'avait pas d'os, elle resterait sur place. Imaginez-vous. Et avec force. Parce qu'il y a là tout un ensemble. Un ensemble solide à l'intérieur, enveloppé finalement d'une chair qui n'aurait pas ni énergie, qui n'aurait pas la capacité. Écrasé, disloqué, comprimé, ils remplissent leur rôle essentiel, tellement naturel. Est-ce que vous avez regardé quelquefois des contorsionnistes? Vous avez vu? C'est du caoutchouc, hein? Et ils ont quand même des os à l'intérieur. Oh là là, c'est dur, hein? Le matin, essayez de faire quelques exercices quand vous vous levez, c'est le meilleur moyen. C'est le meilleur moment. Oh là, c'est dur, hein? De passer votre pied par-dessus votre tête, etc. Il y en a qui le font, hein? Eh, dites donc, ils sont caoutchoutés, hein? C'est pas mal, hein? Même les bébés. Caoutchouc. Enfin, faut pas trop forcer, hein, parce que... Mais c'est quelque chose d'assez étonnant, tout ça. Alors, l'os remplit finalement cette fonction. L'os, il est résistant. Et heureusement qu'il est résistant. Mais il est creux. L'homme a mis des millénaires à découvrir ce principe en architecture pour alléger les matériaux. Dieu y avait pensé avant les hommes. Parce que Dieu est Dieu, tout simplement. Je reviens à Job. Job nous dit, la moelle des os est remplie de sève. Tiens, découverte. Ce vide intérieur est une formidable fabrique qui sert à autre chose, qui sert à la production de globules rouges dans le sang. On le sait. Et qui produit, soi-disant par jour, 1 milliard de cellules. Heureusement qu'on a des os. Hein. Ça sert à ça. L'os, je dirais, est le support de la vie. Il supporte la vie. Et quelle étonnante invention divine que le mouvement. Parce qu'on pourrait être avec là toute une ossification, une ossature, ça c'est sûr. Il pourrait y avoir tout ce que nous avons autour, des muscles, de la peau, etc., etc. Mais qu'est-ce que nous serions, des statues? Et Dieu a donné le mouvement, l'animation. Et le mouvement est quelque chose, parce que l'ensemble fonctionnant en coordination va permettre l'élasticité, et voire même l'élasticité des os, à travers des jointures. Parce que c'est bien tout ça, c'est formidable. Un exemple, savez-vous que le pied, notre pied, enfin si vous le multipliez par deux, ça fera le double hein, de ce que je vais vous dire, le pied parcourt en moyenne, en une vie, 100 000 km. Vous avez regardé au compteur? Vous me direz, hein. Et tout le reste du corps est porté, il est propulsé sur une si petite surface répartie harmonieusement en architecture de voûte, qui agit comme un ressort. Vous vous rendez compte qu'un grand bonhomme, 1,90 m, enfin, excusez-moi pour quand j'ai dit, mais c'est un grand bonhomme, hein, un grand homme, si vous voulez. Il pèse, bon, il a sa charge pondérale, mais imaginez-vous que il repose sur une petite surface qui est grande. Ça, c'est ma main, hein, c'est pas le pied. Hein. Hein. Mais vous vous rendez compte, il peut faire des choses. Il peut courir, il peut aller de droite et de gauche. Il peut faire des choses extraordinaires. Il fait du vélo, il fait du pédalo. Enfin, il fait ce qu'il veut. Hein. Et sur cette petite surface qu'on appelle la plante des pieds, se répartit en architecture finalement, eh bien, tout ce corps. Et ça agit comme un ressort, comme un amortisseur, voilà, tout simplement, ou par flexion, le genou, ou encore par vivotement, les chevilles. Vous vous rendez compte? Il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas faire, c'est tourner la tête complètement dans l'autre sens. Imaginez-vous, ça serait pas mal. Ça ferait un petit peu char d'assaut. Hein. On pourrait parler aussi de l'équilibre dû aux os. Et puis on pourrait parler encore de la beauté. La beauté du corps humain. Parce que c'est à travers les os, imaginez-vous que on n'aurait pas d'os dans le visage. Et rides. Vous savez, j'ai remarqué, là, il y a des chiens, je ne sais pas si c'est des chiens chinois et tout ça, ils sont mignons d'ailleurs, hein. Ils ont des plissements. On dirait qu'ils ont au moins 150 ans. C'est curieux, hein. Vous les avez vus, non? Ah, vous connaissez quand même, hein. Bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, la beauté d'un visage, la beauté d'un corps, il se fait aussi à travers toute cette harmonie, hein, d'une manière ou d'une autre. Je dis que c'est un prodigieux agencement du Créateur. Et David nous dit cette parole que j'aime beaucoup. La connaissez-vous et vous la connaissez, hein, probablement. Quand il dit ces choses, « Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Alors, mes frères et sœurs, si vous pleurez parce que vous dites « Oh, je suis pas beau, Dieu m'a fait pas beau. » Et puis, j'ai des disgrâces et tout ça, ben remerciez le Seigneur hein, quand même. Ouais, parce que la vraie beauté, elle est peut-être ailleurs. Mais déjà de considérer que s'accepter comme l'on est, c'est déjà pas mal. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas ce qu'ils sont. Il arrive parfois que nous ne respectons pas cette merveille qui nous sert avec tant d'efficacité et de discrétion et qui ne se fait remarquer que quand on dépasse le seuil de tolérance. Et on appelle ça une fracture en ce qui concerne les os. Il y a des gens qui prennent des risques. Hein. Voilà. Alors, il y a des fractures malencontreuses. Hein. On a raté une marche et puis bon, on s'est cassé quelque chose. Mais il y a des gens qui, quelquefois, poussent un peu trop loin. Hein. Ils vont jusqu'au maximum. Ils vont jusqu'à la fracture ou à la rupture. Hein. Alors là, ça fait mal. Ça, c'est sûr que ça fait mal, naturellement. Alors, que d'analogies multiples avec l'ossature spirituelle, parce que j'y reviens, qui est la parole de Dieu. On a bien remarqué que la parole de Dieu, c'est l'ossature du corps de Christ, de l'Église, de ce que nous sommes les uns et les autres dans notre foi. Les os dans le corps humain ne sont pas faits pour nous encombrer. Ils sont faits pour véritablement nous dégager. Je voulais vous poser une question. La tortue. Le homard, la langouste, elle a ses os où? Vous avez déjà vu des tortues? Ça sonne pas creux, hein? Nous, on a nos os à l'intérieur, d'accord? Ça se voit pas, heureusement d'ailleurs. Mais ce genre d'animal, il a ses os à l'extérieur. Ben oui, c'est de l'os, hein? Si vous voulez aller par là. Parce qu'ils ont besoin d'une protection contre le monde de l'extérieur. Nous, c'est à l'intérieur. Ah, ça, c'est le monde hein, que Dieu a créé de cette manière. C'est quand on pense à tout ça, on se dit, mais Seigneur a quand même de l'idée et de la suite dans les idées, hein, quand même. D'adaptation au monde dans lequel on vit. Alors, je dis que tout ça, ce n'est pas fait pour nous encombrer, nous limiter ou nous restreindre, mais Dieu les a créés, et là je vais insister, et je vais véritablement insister, il les a créés pour nous libérer. Si Dieu nous a créés avec une ossature, c'est pas pour nous mettre en prison ou nous captiver, c'est pour nous libérer. Et quand Dieu nous a donné la parole de Dieu, ce n'est pas pour nous mettre en prison, à travers la loi, les commandements, les préceptes et tout ce que vous voudrez, mais c'est pour nous libérer, et je vous expliquerai la deuxième fois, la deuxième partie, ce que ça veut dire. On va rester sur la pensée finalement de la loi pour l'instant. Et vous verrez que c'est pour notre épanouissement. Et une église qui n'a pas compris ça et qui vit encore dans la tristesse, qui vit dans le recroquevillement, en se, finalement, là, eh bien, donnant une image de médiocrité de la vie chrétienne, où là, il n'y a plus de sourire, il n'y a plus de vie, on ne fait plus ceci, on ne fait plus cela, c'est qu'on n'a pas compris ce que ça veut dire. Et j'insiste. Et depuis 10 ans que je suis avec vous, j'ai toujours prêché la grâce. Pas la loi. Mais je fais comme Paul, hein. Je fais comme Paul. Paul, il a écrit des épîtres et des épîtres. Il a écrit des chapitres entiers pour dire, mais nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Pourquoi? Pourquoi vous affligez-vous? Pourquoi cette tristesse? Pourquoi vous laissez-vous manipuler par l'adversaire qui persécute votre conscience et qui vous amène à une culpabilité permanente? C'est dit dans la Bible, hein. Moi, j'ai pas toujours compris les choses comme ça. Dans les débuts de ma conversion, je ne comprenais pas les choses comme ça. Et à un moment donné, Dieu nous a amené, m'a amené, à comprendre qu'il y avait une autre ouverture. C'était pas vers la terre, c'était vers le ciel. Où là, on respire, où il y a de l'oxygène. Où on est heureux d'être chrétien. Et on est en bénédiction pour les autres, parce que on leur apporte un message de libération. Et non pas de contenir, ne fais pas ci, ne fais pas ça, etc., etc. Mais vous tuez. Et c'est le contraire de la pensée de Dieu. On devrait être, même dans les épreuves, comme nous le voyons, rempli du fruit de l'esprit, de la paix et de la joie, comme Paul le manifestait dans la prison de Philippe. Et il avait de quoi faire pour pleurer, Paul. On venait de le passer à tabac, on venait de le déchirer dans ses chairs avec des fouets, là, dans cette prison de Philippe, par l'officier romain, qui l'avait battu à mort. Et là, il nous est dit qu'à un moment donné, rempli de cette vie intérieure, qui ne peut finalement rien arrêter, parce que rien ne l'arrête cette vie, eh bien il chantait des cantiques avec Silas. Alors dites donc, vous connaissez les textes, hein, je ne reviens pas trop sur la chose, mais c'est comme ça. Oui, un épanouissement. Alors la foi, qu'est-ce que c'est? C'est le contraire? Pas tout à fait, on le verra. Je repose la même question. Alors la loi, qu'est-ce que c'est? La loi, est-ce qu'elle est une carapace, comme la tortue où je suis enfermé et puis je peux pas faire grand-chose? Ou alors, est-ce qu'elle est pour moi un avantage? Eh bien, moi, je vais répondre ce matin, pour moi, elle est un avantage, lorsque nous comprenons bien pourquoi. La réponse tient à la façon de comprendre, d'interpréter et de vivre cette réalité. L'exercice du sport physique est fait au développement des muscles et des os, à travers l'assouplissement. C'est vrai. De même, la bonne compréhension pratique de la volonté de Dieu, de la Bible, du message biblique, tend au progrès spirituel. C'est pas de connaître et d'avoir une grosse tête, de connaître la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, de connaître les versets, de connaître là les 12 tribus d'Israël, et puis ceci et cela, et de les citer par cœur, et puis non, c'est pas ça, c'est pas la grosse tête. La bonne compréhension pratique de la volonté de Dieu, eh bien, nous amène à tendre à progresser. Paul le dira, aller de progrès en progrès. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y aurait quelque chose dans ma vie qui m'arrêterait? Est-ce qu'il y aurait tant de barrières, de murailles de Jéricho ou de mer rouge à traverser que je ne pourrais parce que je suis dans la loi? Il y a 2 facettes à la réponse. Il y a le commandement intangible que l'on appelle le décalogue, c'est les 10 commandements si vous voulez par là, qui font que cette superstructure sur laquelle Dieu construit son Église peut avoir, c'est vrai, tantôt la robustesse, la dureté, l'inflexibilité de la loi la plus stricte dont Moïse est le premier promulgateur, c'est-à-dire la lettre, et tantôt la souplesse, l'élasticité, le mouvement, la vie, qui a fait de cette même loi rigide, comme le sont les os, un principe de liberté. Et Paul va le marquer en lettres de feu. Il dira ceci, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et qu'avons-nous reçu? Nous avons reçu la lettre, nous le savons. Mais nous avons surtout reçu l'esprit de Dieu, qui libère, qui affranchit, qui fait de nous des âmes libérées, libres, non pas des asservies. Et ça, c'est important. Parce qu'il doit y avoir finalement dans notre vie spirituelle à chacun, il doit y avoir dans la vie de l'Église en général, dans l'Église dans sa généralité, dans notre Église, qu'il y ait des principes de robustesse, de solidité, ça tient debout. On raconte pas n'importe quoi, on n'est pas en train de promulguer toutes sortes de sectes et toutes sortes de choses. On ne parle que de Jésus, de son message, de son salut, de la rédemption qu'il nous a acquise et de la vie chrétienne. Ça, c'est le développement normal d'une église. On n'est pas en train de raconter des fadaises en disant « bah voilà, ceci, cela, etc. etc. » C'est pas ça. Ben, il faut quelque chose de dur et de solide, sur lequel on sait où on va, on marche le chemin. Si c'est un chemin boueux et un chemin avec des fondrières, on va tomber. Mais si c'est un chemin qui a été tracé sur du solide, alors on va marcher. Mais ça doit s'allier à de l'élasticité. Ça doit s'allier à la souplesse qui donne le mouvement, qui donne la vie. Et quand vous avez les deux, eh ben à ce moment-là, je pense qu'on est à peu près dans la ligne médiane que Jésus nous a tracée. Ouais. Soyez fermes. Un esprit ferme dans un cœur tendre, ou un cœur tendre avec un esprit ferme. C'est Martin Luther King qui a dit ça, hein? Ouais. Dans son fameux livre sur l'amour. Oui. La force d'aimer. Alors, nous avons donc ce principe de liberté quand les deux sont alliés. Jésus a pris la loi et l'a accomplie parfaitement en la spiritualisant. Avant, la loi était une loi, je dirais, oui, légaliste, excusez-moi pour le pléonasme, mais légaliste. Fais ceci, fais cela, etc., etc., et avec des œillères. Mais Jésus l'a spiritualisé. C'est pour ça qu'il dira, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. C'est-à-dire lui donner une dimension beaucoup plus forte et plus haute, et qui nous amène, eh bien, à un autre niveau. Et il a consigné cela dans le sermon sur la montagne. Les béatitudes et le sermon sur la montagne. En d'autres termes, quand Jésus, qui était juif, est venu dans cette époque il y a 2000 ans, il n'a pas anéanti, il n'a pas aboli la loi de Moïse, puisqu'il était juif lui-même. Vous savez ce qu'il a fait, Jésus ? Il a donné des articulations à la loi, qu'elle ne soit pas là, cassante et tout ce que vous voulez, mais il lui a donné de la vie. Les articulations, ce sont les jointures qui donne la vie et qui permet de se mouvoir. Il le dira d'une manière extraordinaire, il dira, « Vous avez entendu dire par les anciens, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, ceci et cela. Mais moi je vous dis que celui qui a déjà au fond de son cœur, eh bien la pensée de tuer son prochain, eh bien il l'a déjà commis. Hein. Il a été non pas stigmatisé la loi dans, enfin le mal, dans ce qu'il est visible, mais il a été cherché au plus profond finalement du cœur de l'homme. Tu ne voleras pas, mais à partir du moment où tu commences à avoir un œil qui convoite, c'est déjà bon, hein. Enfin bon, on va pas jusqu'au bout, heureusement, hein. Mais c'est pour dire, Jésus a été fouillé au fond. Il a pas dit en surface, parce que la loi ne traite que la surface, tout ce qui est apparent. Mais le Seigneur a dit, mais moi je vois justement au fond de ton cœur. Et c'est le cœur qui a besoin d'être traité. C'est lui qui a besoin d'être soigné. C'est lui qui a besoin d'être changé. Vous pourrez toujours mettre de la peinture sur les apparences du mal. Vous pourrez le peindre de tous les côtés. Le mal restera le mal. Maintenant, il faut aller chercher au fond du cœur. Et ça change tout. Il a spiritualisé. Il lui a donné une dimension spirituelle. Finalement, eh bien là, à la loi de Moïse. C'est pour ça que nous avons lu que l'ossature a été rendue vivante en quelque sorte. Et nous l'avons lu tout à l'heure. Jean, la loi a été donnée par Moïse. Couperet. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est deux mondes différents, mes frères et sœurs. Et vous savez que notre vie de chrétien peut être changée du jour au lendemain. Si véritablement nous voulons passer de l'un à l'autre, c'est pour cela que dans la Bible il est commun de dire « Il y avait l'ancienne alliance et la nouvelle alliance ». Je précise, il y avait l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'un Nouveau Testament remplaçait le premier. C'était le testament de la loi qui est un devoir, qui est une obligation, qui est une servitude, qui est une captivité, et il y a le deuxième, la nouvelle alliance, où là, nous ne servons plus Dieu, nous ne prions plus Dieu, parce que c'est un devoir, mais parce que nous le faisons avec amour et avec joie. Ça change tout, hein? Vous trouvez pas? Ça change tout, tout au tout. C'est une vie nouvelle. Si j'aime, je dois pas aimer en tremblant, en disant, il faut que j'aime ma femme, ou surtout, il faut que je l'aime. Oh là là! Enfin bon, excusez-moi. Elle est au courant. Elle le sait. Bon. Mais toujours est-il que si je le fais, tout simplement parce que c'est naturel, mais ça va pas être difficile. Quand je lui offre des fleurs, c'est parce que c'est pour elle, c'est pas pour moi. Je le fais naturellement. C'est pas un devoir, ce n'est pas une obligation pour avoir bonne mine. Vous comprenez? Mais c'est parce que finalement, l'amour est au-dessus de tout le reste. Et ça, c'est important. Une autre comparaison pratique. Dans une construction, ce qui fait la force de loi de solidité, ce sont les piliers de soutènement, les pierres d'angle, les poutrelles, les murs, porteurs, la clé de voûte. Et ça, c'est un chef-d'œuvre de l'architecture, la clé de voûte, hein, qui tient tout un édifice sur une pierre. Et en haut, pas en bas. Hein. Observons-le. Le premier aspect de la loi divine produit la crainte et proclame l'inaccessibilité. L'homme, quand il est confronté, même l'homme de tous les jours, quand il est confronté avec les 10 commandements, il dit « Oh là là, oh là là !» Je veux dire que c'est peut-être bien, mais j'en suis pas capable. Parce que ça, ça met une pancarte interdite. La loi de Dieu me dit « C'est impossible ». Et c'est pour ça que je recule. Et c'est pour ça que les gens, il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, aller dans une église, ça m'intéresse pas, c'est que des lois, puis moi, j'y arriverai pas. » Donc, ils ont tout de suite réglé le problème. La loi que nous appellerons la doctrine, parce qu'elle existe, la doctrine, hein, c'est ce que l'on enseigne, c'est ce qu'on vous enseigne. Chaque pasteur qui se prépare au ministère ou au pastorat, on lui fait faire une thèse de doctrine pour savoir ce qu'il va raconter, pour savoir ce qu'il a compris, pour savoir ce qu'il a au fond du... Parce que, bon, il est censé de rester sur la parole. Donc, c'est la doctrine. Et la doctrine est une ossature, c'est une forme de squelette, afin que l'ensemble tienne debout et au centre se trouve la vérité. Et qui c'est qui a dit qu'il était la vérité? C'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et pour venir au Père, il faut passer par lui, tout simplement. Cette vérité, pour être crédible, doit être extrêmement ferme. Une vérité qui serait tantôt d'un jour, tantôt d'un autre jour, et puis qui serait malléable et qui irait à tout vent de doctrine, ou tout vent d'idées, ou de pensées, philosophie, théologie, etc., ça ne tiendrait pas la route. La doctrine de la parole de Dieu ne change pas, ça on est d'accord. Quand je me heurte à la doctrine biblique, ou que je la découvre, c'est contre la partie dure que je bute, la partie sévère, immuable, inflexible, que je me cogne. Et si même je veux faire des efforts pour essayer de mettre la parole de Dieu en pratique, ben je vais m'apercevoir que je vais peut-être réussir à 9%, mais le 1% restant, je vais tomber. C'est ce qu'il nous est dit, celui qui observe les 9 commandements sur 10 et qui enfreint un seul, c'est comme s'il avait tout perdu dans l'ensemble. C'est comme cela. Alors je me cogne. Tous les principes moraux et spirituels sont sans appel. C'est ainsi. Et il ne faut pas les... Et on ne peut pas les accepter sans discuter. C'est-à-dire, il ne faut pas les discuter, tout simplement. C'est comme ça que je veux dire cette chose. Cette vérité est souvent rigide, elle est rébarbative. Les gens qui viennent et qui entendent quelquefois des messages où c'est que la loi et les commandements de Dieu, ils se disent, si c'est ça, moi, je m'en vais. Ça m'intéresse pas. Alors, elle est rébarbative, mais absolument nécessaire compte tenu non seulement de la justice divine, mais avant tout de la condition humaine déchue. C'est parce que la loi me dit que le péché existe, que je vais en prendre conscience, que ceci c'est mal et me met en garde de ne pas le faire, autrement s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a rien qui me dit, s'il n'y a plus, imaginez-vous que demain matin vous ne trouviez plus aucune pancarte de signalisation dans les rues. Bon, on connaît Saint-Nazaire, on va peut-être se débrouiller quand même, mais imaginez-vous le bazar que ce serait dans la ville. Eh ben, si vous enlevez la loi de Dieu, ben, c'est comme ça. Remarquez, on est un peu dans le monde où on a quand même enlevé beaucoup de panneaux d'indications et de dangers et toutes sortes de choses. Mais bon, c'est le monde. Dieu, par la doctrine, m'amène à le rencontrer. J'en prends conscience, j'en prends connaissance, ceci, cela, etc. Mais Dieu m'amène sur son terrain et non pas sur le mien. Je fais ce qui me plaît, je fais ce que je veux. C'est sur son terrain, si je veux m'y prêter, naturellement. La vérité de Dieu ne fléchit pas, elle dit. La vérité de Dieu ne fléchit pas, elle affirme, elle dicte. Exemple des 10 commandements. D'où cette impression de rigidité qui crée le malaise. Ah, ouais, Dieu me dit ceci, mais pourtant j'ai bien envie de le faire. Hein. Je suis tenté de ceci et cela, et puis, pourquoi pas? C'est vrai. Je suis dans le malaise à ce moment-là, parce qu'elle est dure. Et pourquoi? Vous savez, la confiance, elle n'existe dans ce monde, et elle n'existe pour nous en tant que chrétiens si nous sommes sur une base solide. Si nous marchons sur des sables mouvants, il n'y aura rien du tout. Et c'est pour ça que Dieu a donné cette doctrine et cette parole, pour que ça soit solide, pour dire, eh bien, je marche sur du solide. Pourquoi? Pour que la confiance, puis ensuite, comme nous l'avons vu, la foi. Moi, je vais avoir confiance sur ce que je marche. Mais je sais que celui qui a mis ce chemin solide, eh bien, va m'amener finalement à lui faire confiance. Et cette confiance-là va me conduire à la foi. Ben oui, la foi, c'est quoi? C'est la confiance. Et je peux dire, je peux compter sur Dieu. Je peux compter sur lui. Dans un monde, et pour un monde qui ne repose sur rien d'autre, comme la parabole de Jésus, une maison sur du sable. C'est pour ça que le monde est tellement mouvant. C'est pour ça qu'il pourra faire des lois, qu'il pourra promulguer encore des mois et des milliers de lois, etc., etc. Qu'est-ce que vous voulez? Ça ne marchera jamais puisqu'on a enlevé l'essentiel. On a mis dehors celui qui est l'esprit même, finalement, de la vie, de la loi, des principes qui font vivre les hommes. On lui a dit à Dieu, maintenant tu peux partir. D'ailleurs, tu vas pas croire qu'on pense que tu existes, hein, d'abord. Il est évacué, hein, tout simplement. Château de sable. Dieu a voulu, en donnant sa loi, que cette loi ait la qualité de la robustesse et de la fermeté de l'os. C'est-à-dire une vérité qu'on ne peut ni tordre, ni courber. Et les fausses doctrines? Eh ben, c'est précisément justement le contraire. Plus la vérité parfois sévère de Dieu est ferme, plus elle est rigide, plus elle est solide, et plus elle est sûre et fiable. Tout comme, au contraire, une ossature malade et décalcifiée dans un corps n'inspire pas la confiance. Ça, on le fait, on peut le vérifier. La loi, c'est donc l'ossature du peuple des croyants, et on l'appelle la parole de Dieu. Ça, c'est le premier volet. Je termine d'ici quelques instants. Maintenant, voici un autre aspect important, et je dirais qu'il est aussi et supérieur encore à ce que nous avons dit ce matin. Si la constitution osseuse de notre corps n'était que fermeté et rigidité, les hommes ne seraient que des automates mécaniques. Ça va? Je vais bien? Réglés comme des marionnettes. Heureusement qu'il n'y a pas la caméra ce matin, parce que là, il dirait, vous enlevez le son, il dit, pas bien, hein? La vie spirituelle du croyant, le chrétien, serait sans souplesse, sans douceur, sans tendresse, donc sans amour. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui authentiquement sont chrétiens parce qu'ils se sont repentis, nés de nouveau, etc., même baptisés du Saint-Esprit, qui sont sans souplesse, sans douceur, sans tendresse, et quelquefois sans amour. Et c'est bien justement ce qui fait l'effet rébarbatif que des gens ne veulent plus entendre parler de Dieu, ils ne veulent plus entendre parler de l'Église, ils ne veulent plus entendre parler de la Bible, parce que ce qu'on renvoie est tout à fait contraire à ce que, intuitivement, pense que si Dieu existe, il est juste, il est amour et il aime les hommes. Et le tour est gagné, hein. Je peux dire qu'il y en a un qui se frotte les yeux. Pas les yeux, mais les mains. Oui, il se frotte les mains. Il se dit, tiens, quand Jésus leur a dit, vous êtes la lumière du monde et la lumière du monde et le sel de la terre, il y en a un qui est heureux, je peux vous dire. Il se dit, je les ai eus! Je les ai roulés, mais à plate couture. Regardez. Regardez comment ils vivent. Regardez un peu leur étroitesse. Ah oui, c'est des os, c'est tout. Hein. Tout simplement. Regardez comment ils se comportent. Et là, à ce moment-là, je peux vous dire qu'une église, et malheureusement, il y a des cadavres d'église dans toute l'histoire du christianisme, des cadavres d'église, des cimetières d'église, où le message a été passé, mais au contraire. Alors que Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres, acceptez celui qui n'est pas de la même opinion que vous, et ceci et cela, et ça vient comme un fleuve, comme une chute d'eau, comme les chutes du Niagara. Jésus nous ouvre une autre voie, et on ne gagnera jamais personne. Tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, et puis tu sais, si ça t'est arrivé, c'est bien fait pour toi, parce que voilà, il y a tellement de choses. » Non. Le Seigneur, et je le répète encore ce matin, le Seigneur nous le dit dans l'évangile de Jean, « Je ne suis pas venu pour juger et condamner le monde, je suis venu pour le sauver. » Et si nous ne sommes plus le sel, eh bien le sel à quoi sert-il? Si nous ne sommes plus la lumière, nous allons projeter finalement l'obscurité. Et un chrétien, et les chrétiens, et les églises chrétiennes, doivent apporter finalement le rayonnement de Jésus-Christ, qui est l'amour, qui est le soleil, qui est la clarté, qui est la tendresse, qui est la paix, qui est la joie, qui est la patience, qui est la douceur. Je vais m'arrêter là. Tout est partie prenante dans le corps. Voilà. Dieu a créé l'harmonie dans le corps humain en mettant nos os, de la chair, des muscles, des formes agréables. Et il a mis quelque chose, je termine parce qu'on verra la suite, il a mis le sourire. Ben, souriez-moi au moins. Moi, je vous souris souvent, hein. C'est vrai. Souriez. Ouais. Souriez. Tout simplement. Parce que le Seigneur a donné la vie. Voilà ce que je voulais vous dire. Le Seigneur nous a donné la vie. Il n'a pas fait de nous des momies, des statues, des représentations faites à son image, inanimées, complètement pétrifiées, calcifiées. Il nous a donné la vie. Bien sûr, il y a la loi. Bien sûr, il y a la robustesse. Bien sûr, il y a cette nécessité du solide, du robuste et qui tient. Mais il a mis le reste à côté des os. Il a mis un cœur. Ouais. Et le cœur, c'est synonyme d'amour. Alors que le Seigneur nous aide. La prochaine fois, alors on ira directement dans la grâce. On parlera de la foi et vous verrez que ça sera beaucoup plus souriant et beaucoup plus agréable d'entendre ce que vous avez entendu ce matin. Ouais, parce que c'est la vie. Que le Seigneur nous bénisse, que Dieu nous aide. On va prier quelques minutes maintenant pour demander à Dieu qu'il nous aide à comprendre. Je vais vous mettre avec des images parce que Jésus a souvent pris des images que l'on appelle des paraboles pour faire comprendre des grandes vérités à caractère moral et spirituel. Alors que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Et te remercier, Seigneur, pour cette illustration, parce que nous pouvons dire cela comme ça. Tu as bien voulu nous montrer et forcer peut-être notre réflexion sur ce que nous sommes, nous, créatures de Dieu, à commencer par ce que nous pouvons constater le plus aisément, c'est notre corps. Notre corps qui est fait de chair, de muscles, et qui est fait, Seigneur, de toute cette dimension, et bien là, de flexibilité, de souplesse. Mais, Seigneur, il fallait bien que tout cela tienne debout. Et tu as fait une superstructure. Tu as donné une ossature qui est la parole de Dieu, qui est la loi de Dieu, que sont les commandements de Dieu. Et c'est vrai que si nous en restons à ce point, nous pouvons véritablement, eh bien là, être inanimés, immobiles. Et là, c'est pas le meilleur témoignage que l'Église peut donner. Mais tu as voulu, Seigneur, mettre des articulations. Tu as mis la vie. Lorsque tu as créé Adam, tu nous dis que l'Éternel souffla dans ses narines et apporta un souffle de vie. Eh bien, Seigneur, nous ne voulons pas mourir. Nous ne voulons pas être inertes. Nous ne voulons pas être des potiches ou tout simplement des statues. Nous voulons véritablement que cette Église, elle vive. Elle vive à la gloire de Dieu. Elle rende témoignage à la gloire de Dieu. Elle soit lumière. Elle rayonne de Jésus. Et du bonheur que nous avons de connaître Jésus et de connaître le ciel, de connaître véritablement eh bien ce qu'une église peut être, véritablement dans la paix, unie, joyeuse, qui proclame hardiment et librement le message de l'Évangile. Et là, à ce moment-là, le monde sera convaincu que s'approcher de Dieu, ce n'est pas en effet une sinécure. Eh bien, c'est véritablement une libération dans le nom de Jésus. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Amen.